encore une fois sur le fleuve. Encore une fois sur le fleuve, le remorqueur de l'aube a poussé son cri. Et encore une fois, le soleil se lève, le soleil libre et vagabond qui aime à dormir au bord des rivières, sur la pierre, sous les ponts. Et comme la nuit au doux visage de lune tente de s'esquiver furtivement, le prodigieux clochard au réveil triomphant, le grand soleil paillard bon enfant et souriant, plonge sa grande main chaude dans le décolleté de la nuit et d'un coup lui arrache sa belle robe du soir. Alors les réverbères, les misérables astres des pauvres chiens errants s'éteignent brusquement. Et c'est encore une fois le viol de la nuit. Les étoiles filantes tombant sur le trottoir s'éteignent à leur tour. Et dans les lambeaux du satin sanglant et noir, surgit le petit jour. Le petit jour morné, fébrile et blême, et qui promène éperdument son petit corps de revenant, empêtré dans son linceul gris, dans le placenta de la nuit. Alors arrive son grand frère, le grand jour, qui le balance à la Seine. Quelle famille! Et avec ça, le père dénaturé, le père soleil indifférent qui, sans se soucier le moins du monde des avatars de ses enfants, se mire complaisamment dans les glaces du métro aérien qui traverse le pont d'Austerlitz, comme chaque matin, emportant approximativement le même nombre de créatures humaines de la rive droite à la rive gauche et de la rive gauche à la rive droite de la Seine. Il a tant de choses à faire, le soleil, et certaines de ces choses, tout de même, lui font beaucoup de peine. Par exemple, réveiller la lionne du jardin des plantes. Quelle sale besogne! Et comme il est désespéré, et beau, et déchirant. Inoubliable, le regard qu'elle a en découvrant, comme chaque matin, à son réveil, les épouvantables barreaux de l'épouvantable bêtise humaine. Les barreaux de sa cage oubliés dans son sommeil. Et le soleil traverse à nouveau la Seine sur un pont dont il ne sera pas question ici à cause d'une invraisemblable statue de Sainte-Geneviève veillant sur Paris. Et le soleil se promène dans l'île Saint-Louis et il a beaucoup de belles et tendres choses à dire sur elle, mais ce sont des choses secrètes entre l'île et lui. Et le voilà, dans le quatrième. Ça, c'est un coin qu'il aime, un quartier qu'il a à la bonne. Et comme il était triste, le soleil, quand l'étoile jaune de la cruelle connerie humaine jetait son ombre, paraît-il, inhumaine, sur la plus belle rose de la rue des Rosiers. Elle s'appelait Sarah, ou Rachel, et son père était casquettier, ou fourreur, et il aimait beaucoup les harengs salés. Et tout ce que l'on sait d'elle, c'est que le roi de Sicile l'aimait. Quand il sifflait dans ses doigts, la fenêtre s'ouvrait là où elle habitait. Mais jamais plus elle n'ouvrira la fenêtre. La porte d'un wagon plombé, une fois pour toutes, s'est refermée sur elle. Et le soleil, vainement, essaye d'oublier ces choses. Et il poursuit sa route, à nouveau attiré par la Seine. Mais il s'arrête un instant rue de Jouy pour briller un peu, tout près de la rue François Miron, là où il y a une très sordide boutique de vêtements d'occasion, et puis un coiffeur et un restaurant algérien, et puis en face, des ruines, des plâtras, des démolitions. Et le coiffeur, sur le pas de sa porte, contemple avec stupeur ce paysage ébréché. Et il jette un coup d'œil désespéré vers la rue Geoffroy-Lanier, qui apparaît maintenant dans le soleil, intacte et neuve, avec ses maisons des siècles passés, parce que le soleil, il y a de cela des siècles, était au mieux avec Geoffroy-Lanier. « Tu es un ami, lui disait-il, et jamais je ne te laisserai tomber. » Et c'est pourquoi l'ombre heureuse et ensoleillée, l'ombre de Geoffroy Lanier, qui aimait le soleil et que le soleil aimait, s'en va chaque jour, que ce soit l'hiver ou l'été, par la rue du Grenier-sur-Eau et par la rue des Bars jusqu'à la Seine. Et là, les ombres de ces tendres animaux broutent les doux chardons de l'au-delà, et boivent l'eau paisible du souvenir heureux. Cependant qu'au-dessus d'eux, accoudé au parapet du pont Louis-Philippe, le loqueteux absurde et magnifique qu'on appelle le roi des ponts crache dans l'eau pour faire des ronds, fasciné par la monotone splendeur de l'eau courante, de l'eau vivante, sans se soucier du qu'en dira-t-on. Il ne cesse de cracher et, jusqu'à ce que la salive lui manque, offrant ainsi en hommage à sa vieille amie la Seine, quelque chose de sa vie, quelque chose de lui-même. Et il dit « La Seine est ma sœur, et comme je suis sorti un jour des entrailles de ma mère, elle jaillit chaque jour et sans arrêt des entrailles de la terre. Et la terre, c'est la mère de ma mère, et la mort, c'est la mère de la terre. » Et il s'arrête de cracher un instant, et il pense que la Seine va se jeter dans la mer. Et il trouve ça beau, et il est content, et son cœur bat comme autrefois, et il se retrouve comme autrefois, tout jeune, avec une chemise propre qu'il enlevait pour faire l'amour, et il regarde la Seine, et il pense à elle, à la vie et à la mort, et à l'amour, et il crie « Oh Seine, ne m'en veux pas si je me jette dans ton lit !» C'est pas des choses à faire puisque je suis ton frère. Mais pas d'histoire, je t'aime. Alors tu m'emmènes. Mais attention, quand nous arriverons là-bas, tous les deux, là-bas, à l'instant même qu'on ne connaît pas, là où l'eau déjà n'est plus douce mais pas encore salée, n'oublie pas le roi des ponts. N'oublie pas ton vieil ami noyé. N'oublie pas le pauvre enfant de l'amour, avili et abîmé. Et dans les clameurs neuves de la mer, garde un instant ta tendre et douce voix pour me dire que tu penses à moi. Et il se jette à la flotte. Et les pompiers s'amènent, enfin voilà pour lui, comme on dit si simplement, dans les mille et une nuits. Et la Seine continue son chemin et passe sous le pont Saint-Michel, d'où l'on peut voir de loin l'archange et le démon, et le bassin avec qui passe devant eux une vieille faiseuse d'ange, un boy scout malheureux, et un triste et gros vieux monsieur qui a fait une misérable fortune dans les beurres et dans les œufs. Et celui-là s'avance d'un pas lent vers la Seine, en regardant les tours de Notre-Dame, et cependant, ni l'église ni le fleuve ne l'intéressent, mais seulement la vieille boîte d'un bouquiniste, et il s'arrête figé et fasciné devant l'image d'une petite fille couverte de papier glacé. Elle est en tablier noir et son tablier est relevé, une religieuse aux yeux cernés, la fouette. Et la cornette de la sœur est aussi blanche que les dessous de la fillette. Mais comme le bouquiniste regarde le vieux monsieur congestionné, celui-ci gêné détourne les yeux, et laissant là le pauvre livre obscène, jette un coup d'œil innocent, détaché, vers l'autre rive de la Seine, vers le quai des Orfèvres dorés, là où la justice qui habite un palais gardé par de terrifiants poulets gris juge et condamne la misère qui ose sortir de ses taudis. Dérisoire et déplaisante parodie où le mensonge assermenté intime à la misère l'ordre de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et avec ça, dit la misère, faut-il vous l'envelopper? Et voilà qu'elle jette dans la balance truquée la vérité de la misère, toute nue, ensanglantée. C'est ma fille, dit la misère. C'est ma petite dernière. C'est mon enfant trouvé. Elle est morte pendant les fêtes de Noël, après avoir longtemps erré au pied des marronniers glacés sur le quai. Là, à deux pas de chez vous, messieurs de la magistrature assise, levez-vous. Et vous, messieurs de la magistrature debout, approchez-vous. Voyez cet enfant de 15 ans, Voyez ses genoux maigres, ses tristes petits seins, ses pauvres cheveux roux, ses engelures aux pieds et ses crevasses aux mains. Voyez comme la douleur a ravagé ce visage enfantin. Et vous, messieurs de la magistrature couchés et bien bordés, réveillez-vous! Il ne s'agit pas d'une berceuse, d'une romance. Ne comptez pas sur moi pour chanter dans votre cour. Il ne s'agit pas d'un feuilleton, d'un mélodrame. Rien de sentimental, aucune histoire d'amour. Il s'agit simplement de la terreur et de la stupeur qui se peint sur le visage de l'enfant et qui serre atrocement le cœur de l'enfant à l'instant où l'enfant comprend qu'elle va avoir un petit enfant et qu'elle ne peut le dire à personne, pas même à sa mère qui ne l'aime plus depuis longtemps, et surtout pas à son père, puisque malencontreusement, c'est le père qui très précisément est le père de cet enfant d'enfant. Sur un matelas, elle rêvait. Et autour d'elle, ses frères et sœurs remuaient en dormant, et la mère contre le mur ronflait désespérément. Enfin, toute la lyre, comme on dit en poésie. Le père qui travaille aux halles et qui s'en retourne chez lui, après avoir poussé son diable dans tous les courants d'air de la nuit, et qui s'arrête un instant en poussant un soupir navré devant la porte d'un bordel fermé pour cause de haute moralité, et qui s'éloigne avec dans ses yeux bleus et délavés la titubante petite lueur de l'appellation contrôlée. Et le voilà soudain, ancien colonial, si ça vous intéresse, et réformé pour débilité mentale, le voilà plongé d'un seul coup dans la bienfaisante chaleur animale et tropicale de la misérable promiscuité familiale. Et le lampion rouge de l'inceste, en un instant, prend feu dans la tête du géniteur. Il s'avance à tâtons vers sa fille, et sa fille prend peur. Vous imaginez, homme honnête, ce qu'on appelle le reste. Et pourquoi, un soir, deux amoureuses enlacées sur un banc dans les jardins du Vert Galant ont entendu un cri d'enfant si déchirant. J'étais là quand la chose s'est passée, à côté du Pont Neuf, non loin du monument qu'on appelle la Monnaie. J'étais là quand elle s'est penchée et c'est moi qui l'ai poussée. Il n'y avait rien d'autre à faire. Je suis la misère, j'ai fait mon métier. Et la scène a fait de même quand elle a refermé sur elle son bras fraternel. Fraternel, parfaitement. Fraternité, égalité, liberté, c'est parfait. Ô bienveillante misère, si tu n'existais pas, il faudrait t'inventer. Et le ministère public qui vient de se lever, la main sur le cœur, l'autre bras aux cieux, le cornet acoustique à l'oreille et toutes les larmes de son corps aux yeux, réclame avec une émotion non dissimulée l'élargissement de la misère. C'est-à-dire, en langage clair et vu le cas d'urgente urgence et de nécessaire nécessité, sa mise en liberté provisoire pour une durée illimitée. Et ainsi, messieurs, justice sera faite, attendu que, à ces mots, l'enthousiasme est unanime et la tenue de soirée est de rigueur. Et le grand édifice judiciaire s'embrase d'un magnanime feu d'artifice et il y a beaucoup de monde au drapeau et les balcons volent dans le vent et le grand orchestre franco-philharmonique des gardiens de la paix rivalise d'ardeur et de virtuosité avec le gros bourdon de Notre-Dame des lavabos de la buvette du palais et la misère ahurie, affamée, abrutie, résignée, entourée de tous ses avocats d'office et de tous ses indicateurs de police est acquitté à l'unanimité plus une voix. Celle de la conscience tranquille et de l'opinion publique réunie. Et solennellement, triomphalement, reconnue d'utilité publique. Elle est immédiatement, libéralement, légalement et fraternellement rejetée sur le pavé avec de grands coups de pied dans le ventre et de bons coups de poing sur le nez. Alors elle se relève péniblement, excitant la douce hilarité de la foule, qui la prend pour une vieille femme saoule et se dirige en titubant aveuglément vers le calme. vers la paix, vers le lieu d'asile, vers la Seine, vers les quais. Tiens, te voilà qui est belle et qui me plaît. Et la misère tressaille dans sa vieille robe couverte d'ordures ménagères en entendant cette voix de porcelaine brisée. Et elle reconnaît Charlot le Téméraire, dit la fuite, dit perd son temps. Un de ses plus vieux amis, un de ses plus fidèles amants. Et elle se laisse tomber sur la pierre près de lui en sanglotant.
Si tu savais, dit-elle.
Je sais, dit le raccommodeur de faïence. Je sais, dit le laveur de chiens. Et ce que je ne sais pas, je le devine, et ce que je ne devine pas, je l'invente. Et ce que j'invente, je l'oublie. Alors fais comme moi, ma jolie. Regarde couler la Seine et raconte pas ta vie. Ou bien alors, parle seulement des choses heureuses, des choses merveilleuses rêvées et arrivées. Enfin, je veux dire des choses qui valent la peine, mais pour la peine, pas la peine d'en parler. Tout en parlant, il trempe dans la rivière un vieux mouchoir aux carreaux déchirés et il efface sur le visage de la misère les pauvres traces de sang coagulé. Et elle oublie un instant sa détresse en écoutant sa voix éraillée et usée qui, tendrement, lui parle de sa jeunesse et de sa beauté. Rappelle-toi, je t'appelais miraculeuse parce que tu habitais au 6e sur la cour des miracles. Près du lit, il y avait déjà Sainte Bleue et jamais je n'ai oublié une seule boucle de tes cheveux. Rappelle-toi, je t'appelais frileuse quand tu avais froid et je t'appelais fragile en me couchant sur toi. Rappelle-toi la première nuit, la première fois. Les nuages noirs de Billancourt rôdaient au-dessus des usines et derrière eux, les derniers feux du point du jour jetés sur le fleuve de pauvres lueurs tremblantes et rouges. C'était l'hiver et tu tremblais comme ces pauvres lueurs, mais dans le velours vert de tes yeux flambaient les 17 printemps de l'amour et je n'osais pas encore te toucher. Simplement, je regardais le souffle de ton joli corps qui dansait devant ta bouche. Rappelle-toi comme nous avons marché doucement sur le pont de Grenelle sans rien dire. Et n'oublie pas non plus l'île des Cygnes, ma belle, avec ses inquiétants clapotis, ni la statue de la liberté surgissant des brouillards du fleuve qui drapait autour d'elle un triste voile de veuve. Rappelle-toi les clameurs du Veldive. N'oublie pas la grande voix de la foule dispersée par le vent. Et le pont Alexandre, avec ses femmes nues, et leurs grands chevaux d'or, immobiles, cabrés et aveuglés, par les phares du salon de l'automobile, les feux tournants du grand palais, et de l'autre côté, les invalides gelés braquant leurs canons morts sur l'esplanade déserte. Et comme nous sommes restés longtemps, serrés l'un contre l'autre, tout près du pont de la Concorde, rappelle-toi, nous écoutions ensemble résonner dans la nuit le doux souvenir des marteaux de l'été, quand l'été matinal se hâte d'assembler les charpentes flottantes du décor oriental des grands bains de Ligny. Rappelle-toi, nous évoquions ensemble le fou rire des filles franchissant la passerelle leur maillot à la main et les ogres obèses sortant des ministères à midi et qui tentent désespérément d'apercevoir entre les toiles flottantes verticalement tendues un peu de chair fraîche et nue. Nue. Et ma main a serré davantage ton bras. Rappelle-toi. Je me rappelle, dit la misère. 2 heures sonnaient à la grande horloge de la gare d'Orsay. Et quand tu m'as entraîné vers la berge, il n'y avait pas d'autre lumière que celle d'un bec de gaz abandonné, devant le palais de la Légion d'honneur. Mais le sang pâle et ruisselant du dernier quartier de la lune, blessé par un trop rude hiver, éclaboussait le paysage désert où se dressaient, ensoleillés dans la clarté lunaire, d'immenses pyramides de sable et de pierre. Tu te rappelles, comme si c'était hier, dit le vieux réfractaire. Et même que tu as dit en souriant, comme c'est beau, on se croirait en Égypte maintenant. Et c'est vrai que c'était beau, ma belle. Beaucoup trop beau pour ne pas être vrai. Et c'était vraiment l'Égypte. Et c'était aussi vraiment les eaux chaudes et calmes du Nil qui roulaient silencieusement entre les rives de la Seine. Et le sang ardent de l'amour coulait dans nos veines. Rappelle-toi, tu étais couché sur un sac de ciment dans un coin à l'abri du vent. Et quand j'ai posé ma main glacée sur la douce chaleur de ton cœur, ton jeune sein soudain s'est dressé comme une éclatante fleur au milieu des jardins secrets de ton jeune corps couché, caché. Et n'oublie pas la belle étoile, ma belle, celle que tu sais. N'oublie pas l'astre de ceux qui s'aiment, l'astre de l'instant même de l'éternité, l'étourdissante étoile du plaisir partagé. Qui pourrait jamais l'oublier ? Et la misère, souriante et presque consolée, regarde la lumière qui baigne la cité. Près d'elle, un vieux chien mouillé tressaille en entendant le cri d'un remorqueur, saluant encore une fois la fin d'un nouveau jour. Et là-haut, dans le doux fracas de la vie coutumière, la Samare et la belle jardinière descendent en grinçant des dents leur lourd rideau de fer sur le quai de la Mégisserie. Les petits patrons des oiselleries parquent déjà dans leur arrière-boutique les perruches, les rats blancs, les poissons exotiques. Mais avant de rentrer dans l'ombre horrible, un pauvre singe bleu jette un dernier et douloureux regard sur le pont des arts où se promène un grand lion rouge furieux. Ce grand lion rouge, c'est le soleil qui traîne encore un peu avant de s'en aller. Tout à l'heure, les flics de la nuit, à grands coups de pèlerine, vont venir le chasser. Et c'est pour cela qu'il fait la gueule, et qu'il n'est pas content, et qu'il secoue en rugissant sa grande crinière crépusculaire sur les passants. Et les passants se fâchent tout rouges et clignent des yeux. Alors le grand lion rouge se marre, et il se fout d'eux, et il caresse en s'en allant de sa grande patte rousse nonchalamment les reins et les fesses d'une femme qui s'arrête brusquement, songeant à son amant, et regarde la Seine en frissonnant. Thank you.